Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
France Musique. Musicopolis. Hollywood, l'âge d'or de la musique de film. Chapitre 5, un travail de studio et d'atelier. Dans les années de l'âge d'or de Hollywood, on dit qu'une moyenne de 400 films étaient produits chaque année. En termes de musique, ces 400 films représentaient énormément de temps. Je fais un rapide calcul, sans doute très inexact, pour avoir tout de même une vague idée. Si je compte une moyenne de 1h40 de durée par film et de la musique pendant 50% du temps, pour 400 films, j'arrive à 20 000 minutes de musique, environ 333 heures. Imaginez le nombre de pages de partitions d'orchestre que ces heures et ces heures de musique représentent, environ 375 fois la symphonie héroïque de Beethoven. C'est évidemment plus qu'il était humainement composable par les quelques grands compositeurs engagés par les studios. En fait, comme en sculpture et en peinture, il fallait des ateliers. Pendant que les compositeurs les plus connus ou les plus chanceux composent jusqu'à une dizaine de musiques de films par an, les studios engagent des musiciens moins bien lotis pour écrire des musiques d'ambiance qui seront utilisées au cours du film, mais dont les noms ne seront pas crédités au générique. C'est ainsi que plusieurs compositeurs européens, réfugiés aux États-Unis suite à la montée du fascisme ou du nazisme dans leur pays, sont arrivés à Hollywood alors que les places principales étaient déjà occupées. Et tout ce qu'on leur a proposé a été d'écrire de la musique dans des ambiances prédéfinies, un peu comme du temps du muet, payé 25$ la minute. On peut citer les cas d'Ernst Toch, de Mario Castelnuovo Tedesco ou encore de Eric Seisel. Pour les spécialistes de la musique de Hollywood, si d'aventure des chercheurs mettaient le nez dans les archives des grands studios, et plus particulièrement dans les partitions avec le conducteur pour piano de certains films, ils pourraient y faire des découvertes surprenantes et trouver les traces de nombreux compositeurs fantômes. Pour ce qui est de l'orchestration, en revanche, il n'y a pas de mystère. La plupart des compositeurs n'ayant matériellement pas le temps d'écrire toutes les parties de tous les instruments, ils étaient bien obligés d'avoir recours à un orchestrateur. En vertu du fait que le temps, c'est de l'argent et que les studios sont là pour en gagner, leurs départements musicaux sont parfaitement organisés et particulièrement efficaces grâce à la division du travail. Chacun est assigné à une tâche précise en fonction de ses capacités et de ses talents, du moins les talents qui ont été reconnus par les directeurs. Une fois que le compositeur choisi pour un film a écrit ses idées sur une partition qui comprend les mélodies et les harmonies, elle est donc confiée à un orchestrateur. Sauf pour les films de série B, au plus petit budget et donc avec moins de temps pour arriver au produit final. Là, plusieurs compositeurs et plusieurs orchestrateurs sont désignés pour faire le job. Mais prenons le cas d'un orchestrateur comme Hugo Friedhofer, qui a travaillé tout spécialement pour Max Steiner et Eric Wolfgang Korngold. Le premier film sur lequel Korngold et Friedhofer ont collaboré est Captain Blood de Michael Curtis, sorti en 1935. Aventure de cap et d'épée maritime, dans laquelle se distinguent Errol Flynn et Olivia de Havilland. Selon Friedhofer, lui-même compositeur éduqué dans le style post-romantique, les partitions de Korngold lui posaient plusieurs problèmes. D'abord, elles étaient à peu près illisibles et il fallait d'abord les faire mettre au propre par l'unique copiste de Californie du Sud capable de les déchiffrer. Ensuite, il fallait tenir compte de son style très pianistique, pas facile à orchestrer. Quoi qu'il en soit, voici ce que raconte Friedhofer. Nous nous asseyions ensemble au piano avec la séquence à orchestrer et il la jouait d'un bout à l'autre pendant que j'ajoutais les notes qu'il ne pouvait pas prendre avec ses 10 doigts. Il avait la manière la plus extraordinaire qu'on puisse imaginer de faire sonner un piano comme un orchestre. Ensuite, nous discutions de manière détaillée de la couleur de l'orchestre. Je lui disais ce que j'entendais et lui m'exposait sa conception de la couleur. Une fois que j'avais orchestré les sections qu'il m'avait confiées, nous parcourions encore la partition ensemble en détail. Et plus le temps passait, plus il me faisait confiance.
The faithful Emily. Come in, my dear friend, come in.
I think in this present condition I should...
You take care of your own condition.
That's right.
Une fois la partition orchestrée, passée entre les mains des copistes qui vont recopier les parties de chaque instrumentiste, il va être temps d'enregistrer. Un texte très intéressant publié par les studios Warner nous permet de savoir comment les choses se passent. Nous sommes un samedi de mars 1938. L'orchestre, en petite formation, est réuni sur le plateau. On commence à 9h tapante. D'abord, le directeur du département musical, Léo Forbstein, fait répéter un court passage d'un film de série B. Au bout de 2 fois, c'est prêt, on peut enregistrer. À 9h20, Forbstein est de retour dans son bureau. Il va féliciter Max Steiner pour la musique de Jezebel, le film de William Wyler qui a reçu son avant-première la veille. À 9h30, Carl Stolling, directeur du département musical des dessins animés, vient faire répéter l'orchestre pour le dernier des Looney Tunes. 18 des musiciens présents sont sous contrat permanent avec les studios Warner Bros. Pour les besoins de ce jour, on a engagé, nous dirions aujourd'hui en CDD, 6 supplémentaires. Ils vont répéter leur partition, puis l'enregistrer. Carl Stolling, le chef d'orchestre et compositeur de la musique des Looney Tunes, se sert de ce qu'on appelle le click-track, un peu comme des battements de métronome enregistrés sur la pellicule et qu'il entend dans des écouteurs pour être parfaitement synchronisé avec la musique. Répétition et enregistrement, la séance se termine 5 minutes avant midi. C'est pour la musique de Korngold que l'orchestre des studios Warner s'est beaucoup développé. En effet, ses partitions sont très riches et complexes et elles nécessitent un grand nombre d'instrumentistes. À l'origine, pas mal de musiciens de l'orchestre étaient de véritables cow-boys, habitués à jouer dans des restaurants, des bars, des boîtes de nuit. Et on leur a ajouté peu à peu des musiciens professionnels recrutés par Forbstein, le directeur musical, à la demande de Korngold. Ceux-là viennent de différents genres d'orchestres, symphoniques, de radio, de cinéma, d'opéra, de Broadway. Ils arrivent généralement par bouche à oreille. Ils doivent être capables de déchiffrer à première vue, de jouer parfaitement sur de longues périodes de temps et de s'adapter immédiatement à n'importe quel style musical. Il y a très peu de femmes dans l'orchestre des studios Warner, 3 ou 4, dont une harpiste et la violoncelliste Eleanor Haller, engagée dès 1936 à 19 ans comme violoncelle solo. Fille d'un violoncelliste russe émigré, elle a fait ses études à la Juilliard School de New York et elle est la première femme à tenir une place de solo dans l'orchestre. En 1946, c'est elle qui jouera la partie de violoncelle dans le concerto composé par Korngold et qu'on voit jouer à l'écran dans le film « Deception ». Jalousie pour le titre français. Eleanor Haller, la violoncelliste solo des studios Warner, a également été la créatrice du concerto pour violoncelle que Korngold a tiré de la musique du film Deception. L'année suivante, en 1947, avec son mari, le violoniste Felix Slatkin, également chez Warner, et deux autres amis musiciens dans des orchestres d'autres studios, elle a fondé le Quatuor de Hollywood, qui a peu tourné en dehors de Californie et pour cause, mais dont les enregistrements ont été très appréciés, non seulement ceux des quatuors classiques et romantiques, mais aussi ceux du XXe siècle. La qualité de l'orchestre des studios Warner, comme celle des autres grands studios, est peu à peu devenue excellente. D'ailleurs, si on prête un tant soit peu attention à la musique des films, on s'aperçoit que l'interprétation de la bande musicale est toujours impeccable. Qu'il s'agisse d'un grand film chouchouté par le studio, d'un film de série B, d'un dessin animé ou d'une comédie musicale. Mais revenons à ce samedi de mars 1938. Pendant que les musiciens prennent leur pause déjeuner, toute une équipe installe le matériel nécessaire pour la séance de l'après-midi, l'enregistrement d'une scène des aventures de Robin des Bois. Il faut placer des chaises et des pupitres supplémentaires et les micros qui vont avec, puisque le nombre de musiciens sera porté à 56 pour la partition de Korngold. Thank you. La musique de la scène qui doit être enregistrée ce samedi de mars 1938 est à peine composée. Erich Wolfgang Korngold l'a terminée la veille. À 8h30 du soir, Hugo Friedhofer, son orchestrateur dédié, est venu discuter avec lui de la partition et de quel genre d'orchestration il voulait. En fait, presque tout le détail des instruments qu'il désire est noté sur les 3 ou 4 portées de la partition qu'a écrite Korngold, mais il faut encore tout traduire en notes. Au bout d'une heure, Friedhofer est rentré chez lui et il s'est mis au travail. Il y a passé la nuit, de manière à ce que les copistes puissent prendre le relais tôt le matin et préparer les parties de chaque instrumentiste pour la séance de 13h30. L'enregistrement commence, Korngold dirige, on peut voir la scène se dérouler en noir et blanc sur l'écran, en silence, seul le chef entend le dialogue dans ses écouteurs. Il ne se sert pas de clic-trac, comme le fait Steiner, mais on lui ménage parfois un punch, c'est-à-dire un petit trou dans la pellicule qui laisse passer la lumière du projecteur et produit une sorte de flash qui se voit même sans relever la tête de la partition. À 15h45, la musique de la scène d'amour des aventures de Robin des Bois, qui devait être enregistrée ce jour-là, est en boîte. Le réalisateur Michael Curtis est venu jeter une oreille dans le studio et il est très ému, en larmes même. Il y a là aussi tout un contingent viennois, des amis de Korngold, comme lui réfugiés autrichiens, qui l'applaudissent chaleureusement. Tout le monde est ravi de ce nouvel épisode de « Robin des Bois dans la forêt viennoise », comme il l'appelle en référence à une célèbre valse de Strauss, « Légende de la forêt viennoise ». Pour les compositeurs les mieux placés dans le studio, ceux qui composent la musique des films à plus gros budget, ce sont souvent eux qui dirigent leur propre musique. Ils connaissent leurs partitions, ils savent où sont les difficultés et comment faire au mieux. Les répétitions sont en général très minutieuses, peut-être plus encore que pour un autre type d'orchestre. Tout simplement parce qu'enregistrer coûte cher et que moins de prises on fera, mieux ce sera pour le studio. Lorsqu'on demandait à Max Steiner quelles étaient les qualités nécessaires pour faire un bon compositeur-chef, il répondait « les capacités, le bon caractère et, en majuscule, la patience ». Tellement de choses peuvent arriver. Thank you. À présent que la musique est enregistrée, il reste pas mal de travail encore et l'ingénieur du son n'en a pas fini. Il va falloir faire un mixage très précis pour remettre sur la même pellicule l'ensemble du dialogue, des bruitages et de la musique, en équilibrant le tout pour qu'on puisse distinguer chaque parole. Et très vite, tout sera prêt pour l'avant-première, au cours de laquelle d'autres changements pourront encore être demandés. Si un directeur n'aime pas tel ou tel passage, on devra supprimer la musique, ou en ajouter, ou couper tout ou partie d'une scène. Le studio a tout pouvoir sur le film et sur sa musique. Vous étonnez peut-être du son assez brouillon de ces musiques de films. C'est qu'à l'époque de cet âge d'or d'Hollywood, elles ne sont pas publiées en disque. Et pour vous faire entendre des extraits, je dois prendre les films d'origine dont le son est parfois bien abîmé. Souvent, de nos jours, les bandes musicales ont été réenregistrées, comme c'est le cas pour un certain nombre de partitions de Korngold, par exemple. Cependant, même dans les années 30 et 40, parfois en guise de pré-publicité, les studios organisaient une séance à la radio pendant laquelle on pouvait entendre une suite orchestrale basée sur le film qui allait bientôt sortir. De cette manière, d'une part, le public était prévenu de cette sortie et d'autre part, il était déjà familiarisé avec les principaux thèmes, ce qui, peut-être, lui donnerait envie d'aller voir le film. Ainsi, les gens reconnaîtraient-ils la musique au moment de la projection, ce qui pourrait exercer une influence favorable sur sa réception. On entend ici Korngold lui-même jouer le thème principal de la musique du film King's Row, en français « Crime sans châtiment ». Korngold a été enregistré bien à propos, alors qu'il jouait lors d'une soirée offerte en son honneur par le directeur musical des studios Warner, Ray Hendorf, qui s'est ensuite servi de cette prestation pour introduire la suite consacrée à la musique du film. Il semble que les producteurs, qui régnaient sur les studios de Hollywood dans les années 30 et 40, pour la plupart n'y connaissaient rien en musique, et de nombreuses anecdotes circulaient parmi les musiciens sur l'incompétence de leurs employeurs. Ceux-là étaient également persuadés que les goûts du public ne pouvaient aller au-delà de la musique romantique et, disons, des poèmes symphoniques de Liszt. C'est pour eux que les premiers compositeurs des longues partitions du parlant, ces compositeurs pour la plupart venus d'Europe et élevés dans l'ambiance fin de siècle de la Mitteleuropa, ont créé ce riche style symphonique qui nous paraît aujourd'hui tellement glamour. Style dont l'influence s'est largement fait sentir longtemps dans la deuxième moitié du XXe siècle. Le thème de Star Wars, épisode 4, de John Williams, qui ressemble beaucoup, vous l'avouerez, au thème de King's Row de Eric Korngold. Tout le programme, la réécoute et le podcast de tous les chapitres de notre série sont sur francemusique.fr, page Musicopolis et sur l'appli Radio France. Pour nous écrire, rien de plus simple, vous cliquez sur l'onglet « Contact ». Notre grande petite équipe était composée aujourd'hui de Lucas Derode pour le mixage, Philippe Petit pour la réalisation et Léa Gramusset pour les recherches et le site. À réécouter sur francemusique.fr.